Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne pour débriefer le match de Coupe de France entre Le Puy et Rennes. Et on vous le dit tout de suite, au moment où cette émission est enregistrée, le tirage au sort des demi-finales n'a pas encore eu lieu. Donc nous ne connaissons pas le futur adversaire du Stade Rennais. Ça ne va pas nous empêcher de parler du match d'hier soir, de la prestation de Benjamin Bourigeaud. Parler peut-être, si on a le temps, du match face à Lorient qui sera compliqué dimanche après-midi. Tout cela avec Christophe Penven de TVR. Nous sommes aussi avec deux confrères éminents qui nous font le plaisir d'être là, à commencer par Thomas Rassouli de SRO, mais nous sommes aussi avec Guillaume Lenné de West France. Messieurs, on ne perd pas de temps, 25 minutes, c'est court. Le résumé le sera aussi. Voici Le Puy Rennes. Il y avait 31 000 spectateurs dans le chaudron et les premiers en action assez rapidement vont être les Rennais face à une très très bonne équipe, on en reparlera, de National 2. C'est Guiri qui va mettre le gardien à contribution même si sa balle ne prenait pas la direction du cadre. 8e minute, corner Bourigeaud, tête de théâtre, elle est imparable. Et évidemment, pour le stade, c'est la consternation. Mais Rennes se met très bien dans cette partie. Rennes qui aura d'autres occasions, qui fera quelques belles actions en cette première période. Là, ce déboulé de Doué. La reprise de Bourigeaud qui n'est pas cadrée. Il aurait fallu la cadrer. Puis en fin de première mi-temps, c'est un peu compliqué. Les Rennais ont quelquefois bien du mal à se défaire du ballon et à écarter le danger. Et là, juste avant la mi-temps, c'est un frisson qui passe au-dessus de la cage de Mandanda. Heureusement, début de deuxième période parfait parce qu'il y a pénalty signé par M. Bellage pour cette faute sur Truffert. L'exécuteur des hautes œuvres à Rennes, c'est Bourigeaud, frappe sous la barre et 2-0. Et on se dit que cette fois, ça y est, c'est fait. Rennes va s'imposer, d'autant que quand Rennes joue à une touche de balle, c'est magnifique. Déboulé de Truffert, centre parfait, croit-on, pour Guiri, mais le ballon passe au-dessus. Vous savez que dans le football, le troisième but, c'est le plus important. Et bien le troisième but, ce sont les Ponos qui vont le marquer. But de très belle facture. Très bien joué avec ce petit ballon dans la profondeur. 2-1. Commence à avoir des frissons côté Rennais. Pas très longtemps parce qu'il y a un 1-2 magnifique entre Kalimuendo et Bourigeaud. Bourigeaud qui marque enfin dans le jeu après avoir marqué 3 pénaltys consécutifs. 3-1. Les joueurs du Puy ne reviendront plus jamais. Rennes s'impose et se qualifie pour la demi-finale au terme d'un match qui aura été très très intéressant. Et ce qui nous a frappé tous, autant qu'on en est quand on a regardé le match, c'est la qualité de l'adversaire, non ?
Ouais, complètement. C'est une très belle équipe du Puy. On était étonné de ce niveau affiché par une équipe de N2 qui était plusieurs divisions en dessous du Stade Rennais.
4.
Je les ai trouvés pourtant meilleurs que Sochaux qui évolue un petit peu plus élevé. Ils ont livré une super prestation. Faut leur rendre ça clairement.
Faut quand même rappeler que c'est une équipe amateur certes, avec que des contrats fédéraux et des joueurs qui viennent de zone de formation et qui s'entraînent 7/7. Donc ce sont des semi-professionnels. La belle histoire de la coupe avec les amateurs de Calais à l'époque, vous vous souvenez, avec les boulangers et compagnie, ça n'existe pas.
Oui, c'est ça. Le gars qui est plaquiste, l'autre carreleur, le troisième qui vend des panneaux photovoltaïques. Oui. On n'a pas eu ça.
Une équipe en pleine confiance. Voilà, c'est après 17 matchs sans défaite, forcément, on a compris pourquoi cette équipe était en confiance, techniquement, tactiquement, physiquement. Moi, j'étais étonné de voir cette équipe. Je pensais,
en première mi-temps, Christophe Penven me dit en première mi-temps,
ils vont exploser physiquement. Non, ouais, j'étais pas aussi catégorique, Vincent. Mais bref, j'ai dit, on verra en deuxième mi-temps. Effectivement, cette équipe, elle jouait à 200%. Et donc, j'étais étonné de la voir tenir en plus sur la durée. Non, excellente équipe de foot.
Mais c'est ça résume ce que dit Guillaume tout de suite, c'est une équipe qui s'entraîne comme des pros, c'est leur boulot principal, ils n'ont pas d'autre activité, ils évoluent juste des divisions en dessous, mais c'est leur métier.
Mais on aurait pu croire qu'il y aurait quelques erreurs technique, vous savez, les mauvais contrôles, les balles qui partent en touche.
Dans la finition, quand même, oui.
Dans la finition, oui, mais oui. Pour le reste, regardez, les transversales, les contrôles, c'était d'un autre niveau que Sochaux.
C'est peut-être une équipe qui a aussi peut-être surperformé sur ce match-là. Il y avait l'engouement, ils jouent jamais devant autant de spectateurs acquis à leur cause. Voilà, vous êtes transcendés aussi un petit peu dans les matchs comme ça, vous pouvez élever votre niveau de jeu, ça explique peut-être ça aussi. Mais ça pêchait à la finition, clairement, et heureusement pour Rennes.
On reparlera de Rennes et de son attitude. Il y avait peut-être un peu plus de détermination chez cette équipe.
Pour moi, le problème principal du match, l'analyse pour moi numéro 1, elle est celle-là. Elle est qu'il y a un problème d'engagement de Rennes sur le match. C'est un engagement insuffisant individuellement sur plusieurs cas particuliers et même collectivement. Moi, je pense que ils ont pris au sérieux le match, le Stade Rennais, c'est évident. Après, je pense qu'ils ont pensé malgré tout qu'ils arriveraient à les battre, on va dire relativement facilement, sans faire énormément trop d'efforts avant Lorient qui arrive très vite. Je pense que malgré tout, inconsciemment, il y a eu ça et que là, l'engagement entre les deux équipes a eu une grosse différence.
Ouais, on va y revenir sur ce qu'a fait Rennes. Juste quand même. Pour parler du Puy, c'est rare hein, quand même dans Pleine Lucarne qu'on parle aussi souvent et aussi rapidement de l'adversaire dans l'émission. Il y a des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil. Moi, j'en ai vu deux, mais je pense qu'on a tous vu les mêmes. Hein.
Ouais.
Le défenseur.
Ayessa, défenseur central. Moi, j'ai bien aimé l'attaquant aussi, qui est passé par Rennes, Brian Adinani, qui était pas
oui.
mal.
Oui, j'ai bien aimé Meyer, leur meneur de jeu, là, très fin.
Puis leur but est magnifique. Je veux dire, c'est pas un but de raccro sur une erreur de l'adversaire, c'est un but bien construit. Alors, ça sort mal, le joueur qui fait la passe décisive, il se retourne tranquille, il met dans la profondeur. Donc, ça, c'est pas logique de la part des Rennais de pas être au pressing, mais en tout cas, collectivement, le but est à l'image de leur match de très bonne qualité.
Alors, dommage quand même, une fois qu'on leur a tressé des lauriers. Que tout le monde leur a tressé des lauriers. Il y a eu une haie d'honneur à la fin du match par les joueurs du Stade Rennais. Julien Stéphan a tressé des louanges à cette équipe et à son entraîneur, qui lui-même était très heureux de ce que disaient les Rennais. Donc ça s'est passé dans une bonne ambiance. Sur le terrain, pas de mauvais gestes, un arbitrage cohérent. Mais alors, ailleurs, autour, pas terrible du tout, le Puy. Alors, ça sifflait tout le temps dans les... Les gens qui étaient là-bas disent que c'est rare de voir un public qui siffle autant.
C'est les retours qu'on a de nos confrères de West France, de France Bleu Armorique qui étaient là-bas. Ouais, effectivement, il y avait une ambiance qui était un petit peu particulière. Il y a eu aussi, a priori, des vitres brisées sur le parking pour certains supporters qui étaient immatriculés 35. À la limite, ça, c'est pas tellement le club du Puy qui peut le gérer. Ce qui interroge plus, peut-être, c'est le message publié.
Alors,
c'est de ça dont vous voulez parler.
Ben
je
oui,
pense.
On va parler du message publié par le directeur financier qu'on va le voir. Alors, c'est sur Facebook. Il dit oh, dommage que Rennes n'ait pas laissé toute sa recette. Monsieur Pinault, votre club touche beaucoup d'argent. Faire ça à un club amateur qui n'a pas eu le droit de jouer chez lui, c'est pas très sympa. Je laisse les réseaux sociaux faire le reste, dit ce monsieur Philippe Thiébault. Alors, autant dire que je laisse les réseaux sociaux faire le reste, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
La conclusion, elle est d'une stupidité sans nom. Enfin, c'est pas possible. Il peut toujours faire ce post Facebook. Il a ses arguments très bien. On peut prendre parti, pas prendre parti. Les méchants, les gentils, je sais pas. En tout cas, franchement, la conclusion du truc, c'est un
appel au harcèlement.
Ouais. Oui. Enfin, faut le dire. C'est moi, je trouve ça dangereux des messages comme ça. Il y a un moment. On va parler du fond tout de suite de l'affaire, mais sur la forme. Un message publié sur un compte Facebook personnel à une heure un petit peu tardive, avec un français approximatif, mais ça à la limite. Mais surtout, cette dernière phrase, enfin, je sais pas, en 2024, c'est super dangereux quoi, de faire des trucs comme ça. On en parle tout le temps, il y a des articles tout le temps, il y a des cas d'espèces tout le temps de harcèlement en ligne, et on a des trucs comme ça. Je laisse les réseaux sociaux faire le reste. À part déchaînez-vous, ça veut dire quoi ça ?
Oui, c'est ça. Mais parce que sur le fond, il se passe quoi ? Rennes est parti avec son argent ?
Rennes est parti avec la part qui rentre dans ses frais de déplacement, c'est-à-dire avion, hôtel, etc. On n'a pas le chiffre exact, peut-être que Thomas, là, parce que le président, on l'a eu au téléphone, n'a pas voulu communiquer là-dessus, mais le Stade Rennais a laissé plus de la moitié
de sa recette
au club du Puy. Donc c'est déjà faux par rapport à ce communiqué. Une estimation, peut-être 60, 70 000 euros ont été laissés au club du Puy, donc c'est quand même important. Mais ce qui est le plus marquant, et notamment qui a choqué, c'est la réception aussi, l'accueil qu'a reçu le Stade Rennais là-bas, notamment du président, qui ne sait pas qui est le président du Puy, n'a pas été accueilli, n'a pas eu un verre d'eau, n'a pas été salué, du directeur financier qu'on vient de voir avec ce communiqué, pareil. C'est juste le directeur sportif qui a accueilli
la délégation,
parce que c'est un ancien Dijon et que Olivier Cloireg le connaissait. Voilà, c'est un peu plus facile, mais en tout cas, ils ont été reçus de façon pas appropriée et sont très en colère, le Stade Rennais, avec ce qui se passe en plus aujourd'hui avec ces réseaux sociaux, ce message.
Parce qu'il y a un petit peu l'amont aussi, c'est la préparation de la rencontre aussi qui pose un peu question. Aujourd'hui, le Stade Rennais Rennais a repris ses frais de déplacement qu'il a fallu mettre pour aller à Saint-Etienne.
Ils le font tout le temps,
voilà.
Faut le savoir.
Donc, ils étaient de 55 000 euros pour aller à Sochaux, mais au moment où ils se préparent pour aller à Sochaux, ils peuvent se préparer en amont, bien avant de savoir qu'ils vont à Saint-Etienne, puisque le Stade Rennais avait proposé au club du Puy de recevoir Roazhon Park. Ils avaient fait une offre commerciale le Puy a mis entre 5 et 6 jours pour répondre, donc le Stade Rennais a été prévenu relativement assez tard pour s'organiser pour aller à Saint-Etienne. Donc c'est les frais de déplacement sont un petit peu plus conséquents. Ils ont repris leurs frais de déplacement, mais a priori c'était peut-être pas assez pour les dirigeants du Puy qui, voilà, moi j'exclus pas qu'il y ait un petit rétro-pédalage dans quelques temps aussi. Là-bas je pense qu'on a pris conscience aussi de ce message un peu maladroit du directeur financier. L'entourage de cette région.
On va pas en faire une affaire d'État. C'était une très belle équipe. C'est pas autour au niveau de ce que l'équipe a montré sur le terrain. Les confrères de Laval avaient déjà un peu averti sur l'attitude globale autour de la rencontre. C'est fini. Ils sont éliminés. Rennes est qualifié. Et tout est bien qui finit bien. On les reverra jamais. En tout cas, on les reverra pas avant longtemps. Qu'est-ce qui nous manque quand même, messieurs, pour être totalement, pleinement satisfaits?
De la fraîcheur. Il manque de la fraîcheur à cette équipe.
Il manque rien?
Mais non,
évidemment, vu les résultats, 14 matchs. Les 14 derniers matchs, une défaite, 11 victoires, 2 nuls, c'est ça. C'est exceptionnel ce que fait le Stade Rennais sur ces 2 derniers mois.
C'est vrai.
Exceptionnel. Après, là, sur ce match-là, où on s'est dit, tiens, le Stade Rennais a un peu de mal, je pense que l'accumulation des matchs fait que ce Stade Rennais manque un peu de fraîcheur et elle tire un peu la langue. Parce que pour moi, ce match a été pris sérieusement, comme tu l'as dit, Guillaume, mais qu'évidemment, il n'y avait pas les jambes, l'agressivité. Je pense que cette équipe tire un peu la langue, donc voilà, il faut le redire. C'est pour ça que, voilà, on reste un petit peu sur notre fin.
Cette équipe vient de jouer quand même 8 matchs en 29 jours.
Il faut le rappeler.
Faut quand même le dire. 8 matchs, dont 2 de Ligue Europa avec un déplacement à Milan.
8 pleines lucarnes.
Un nul, exactement. 8 matchs, dont un nul arraché au Parc des Princes, alors que la victoire leur tendait a priori les bras. Je suis d'accord avec ce que disent ces deux hommes autour de la table. Exactement. Mais la fatigue engrangée, je pense, joue un petit peu. Et Guillaume l'a dit, il y a la manière d'aborder la rencontre. Il y a les discours de communication. C'est un match qu'on va aborder comme les autres. On n'aborde jamais un match contre un adversaire qui a 4 divisions de moins que contre le PSG quand on va au Parc des Princes. Et limite, c'est naturel, mais c'est normal. Et à limite, je suis pas tellement à pointer ce qu'il a manqué. C'est pas tellement inquiétant, je veux dire. C'est limite plus normal. Et à limite, ils ont plus d'énergie pour affronter et plus d'engouement pour affronter Lorient. C'est plus naturel.
C'est de la Coupe de France. De toute façon, la Coupe de France, quelle que soit la manière, on va le refaire à chaque fois et on le redira à chaque fois. Il faut se qualifier. Voilà. En général, ce qui reste, et en tout cas ce que les équipes digèrent après ces matchs-là, c'est pas le contenu, c'est la qualification. Et je pense qu'il y aura aucun impact par rapport à Lorient, si ce n'est, comme l'a dit Christophe, l'histoire de la fraîcheur qui, quand même, ça commence à tirer.
Ouais, je pense que le Stade Rennais du mois de novembre se fait sortir peut-être à Saint-Etienne. Voilà, faut montrer ça, faut le dire aussi. Stade Rennais, face à une équipe comme ça, aurait pu se faire sortir au moins de servir au moins de novembre.
On l'a dit, très belle équipe, mais pourtant, à la fin du match, Benjamin Bourigeaud dit on a manqué de rigueur. Vous ne le dites pas, vous dites on a manqué de fraîcheur. Lui, il dit rigueur, vous dites que ça revient au même.
Engagement, ces choses-là, je pense que la rigueur, elle est liée aussi à l'engagement, à la concentration de tout le monde en même temps, tout le monde est branché en même temps. Voilà, comment vous réussissez à battre Milan et comment vous réussissez à faire un match nul au Parc? C'est comme ça, avec de l'engagement, de la concentration ultime de chacun, qui permet de voilà. Mais là, c'était pas le cas au Puy, clairement. Donc voilà, vous êtes en danger.
Puis pour une fois qu'on est plus clément avec eux qu'ils ne le sont avec eux-mêmes, c'est bien aussi.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai aussi. Vous avez jamais eu peur dans le match? Alors vous me dites non. Alors, Thomas.
C'est lié
à
aussi.
2-1, vous n'avez pas eu peur.
La manière de vivre le match. Je me suis pas déplacé à Saint-Etienne et regardé ce match-là derrière la télé avec un scénario où globalement, j'ai pas tellement été inquiété sur cette rencontre. C'est mon ressenti, mais c'est juste un ressenti personnel.
Très peu d'occasions. Ok, ils sont dominateurs, il y a 50%, ils ont même une possession un petit peu au-dessus le Puy. Ils sont assez dominateurs dans le jeu, à 2-1, etc. Mais ce que je veux dire, ils sont pas efficaces dans la dernière passe. Il y a pas d'occasion franche, donc on se dit,
allez. Ils cadrent que 3 fois.
J'étais pas non plus comme Thomas. J'étais pas stressé,
d'accord,
quoi.
Ok, non. Vous n'étiez pas stressé, non. Guillaume, vous n'êtes pas stressé de nature.
Non,
nature, il est pas stressé.
Stressé pour du
non. Je suis stressé pour vous, les gars. Je stresse pour 3.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de grandes craintes. En tout cas, pour ma part, de grandes craintes. Voilà, on sentait quand même la supériorité rennaise globale. Alors après, oui, il ne fallait pas déconner quand même.
Voilà.
Il ne fallait pas déconner quand même.
Alors parce que toujours, on dit, c'est un lieu commun maintenant, disait le troisième but dans un match qui est le plus important. Rennes à 2-0 est tout près de marquer le troisième but. On va le voir, là, c'est Guiri qui a une, qui a une action, parce qu'il y en a eu des belles actions collectives, hein, quand même.
Voilà, heureusement, c'est beau. Heureusement, ça se termine mieux parce que, par exemple, on a beaucoup parlé au Parc de l'occasion ratée par Bourigeaud qui aurait peut-être fait le break. Là, ça se termine mieux pour le Stade Rennais.
Voilà. Mais il y a un petit rebond qui est un peu gênant.
Ce qui était intéressant sur ce match-là, c'était les appuis remises. Il y avait beaucoup, il y a eu beaucoup de gens en triangle, à duo, appuis remises, dédoublements. Ça, pour le coup, on sent. Et là, c'est du fond. C'est la confiance accumulée depuis un mois. Là, on le voit sur ces actions.
C'est vrai. Et puis qui laisse plus d'espace aussi, j'ai trouvé, que des équipes de Ligue 1, que le Stade Rennais a pu. C'est, des combinaisons comme ça, ça se verront plus facilement contre une équipe.
Notamment le 1-2, Calimundo, où il y a vraiment beaucoup de place. Mais le troisième but, c'est le puits qu'il marque. Vous en parliez tout à l'heure, Christophe, on va le voir. Là aussi, c'est un peu appui-remise aussi, avec un bon choix de profondeur. Je trouve qu'on. Voilà, le milieu laisse un peu jouer quand même.
Totalement.
C'est les deux. Le milieu a été dépassé quand même dans cette rencontre. Moi, j'ai trouvé. C'est peut-être le point négatif que j'ai envie de relever de ce match-là, c'est que j'ai trouvé. Je peine un peu à être convaincu par l'association Santa Maria Matuziwa dont vous voulez nous parler.
Oui, non, dont on va, sur laquelle on va revenir dans un instant.
Santa Maria, il enchaîne.
Ça aussi, j'étais étonné, moi, de le voir débuter.
J'ai envie de l'excuser parce qu'il est à droit de tirer la langue aussi.
Oui, bien sûr. Alors, juste, je voudrais vous faire écouter Truffert en zone mixte. Lui, il voit que l'aventure avance, Adrien Truffert. Il n'était pas de la Coupe de France en 2019. Il n'était pas loin. Écoutez.
J'étais au centre de formation.
Ouais.
Je commençais même pas à m'entraîner avec les pros. J'étais encore en CFA, ou même en 19. Et on était tous au Stade de France parce qu'on avait tous été invités. C'était un moment génial. On espère le revivre cette année, mais avant ça, il y a pas mal de matchs.
Pas mal de matchs. Donc une demi-finale dont vous connaissez, vous, si vous nous regardez après 21h le tirage au sort. Pas nous. On espère que ça va bien se passer. Et il y aura ce match contre Lorient dont on va parler dans un instant, juste avant les notes des joueurs. Une moyenne de 5,5, c'est un peu classique avec deux joueurs qui survolent, hein, Bourigeaud 8 et puis Théat qui a 7 et puis des joueurs qui sont en dessous, Terrier notamment qu'on n'a pas beaucoup vu, Désiré Doué qui en a énervé quelques-uns en perdant des ballons notamment au milieu de terrain alors qu'il a fait des belles choses par ailleurs, et Gallon qui a été un peu inquiétant sur son jeu au pied, mais ça c'est un peu la norme avec les gardiens rennais ces temps derniers. On revient sur Bourigeaud, c'est dingue quand même quoi. Alors on va dire, vous parlez toujours de Bourigeaud, vous parlez toujours. On peut pas faire autre chose, Guillaume.
5 buts. Un gars qui en une semaine met un triplé contre le Milan, plus un doublé et une passe décisive ici une semaine plus tard. On va pas en parler, a priori.
Ouais. Il est revenu à un très bon niveau, bon niveau de confiance, surtout on revient encore toujours à la même chose. Quand on se souvient de son niveau à l'automne, qui était quand même assez catastrophique. Là, on voit un Bourigeaud décisif. Ça fait quoi, 12 buts cette saison et 7 passes décisives pour un joueur qui a fait une demi-saison, franchement, c'est pas mal.
5 passes décisives, mais les deux tiers, en tout cas, sont inscrits en 2024. On va pas non plus oublier que le Bourigeaud de la première partie de saison était en difficulté, mais le Bourigeaud 2024 est incroyable. 8 buts, 3 passes décisives sur ce début d'année 2024. Ok, on va me dire, c'est 7 pénalties dans ses buts sur 8 qu'il a tenté, 7 pénalties inscrits, ça aide aussi, mais n'empêche que sacré bonhomme et sacré joueur, l'homme clé, l'homme phare en ce moment du Stade Rennais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est performant sur plusieurs positions. C'est qu'on l'a vu débuter dans un 4-4, sur le côté droit d'un 4-4-2 un peu classiquement. Et quand le milieu a un peu trop pris l'eau vers la 70e et que les premiers changements arrivent, il repasse au milieu dans un 4-3-3. Oui. Il a déjà évolué aussi en double pivot en 4-4-2. Donc c'est intéressant.
Sur le dernier match, j'ai trouvé plus performant dans l'axe que sur un côté. Moi, je le trouve plus impactant quand même dans l'axe, dans le milieu à 3. Et c'est là où il peut y avoir un petit doute peut-être de Julien Stéphane sur l'animation. Si vous considérez aujourd'hui que votre meilleur joueur, en tout cas le joueur le plus en forme, et il faut le mettre en bonne condition, est-ce que vous ne passez pas sur un 4-3-3 même contre Lorient?
Est-ce le même 4-3-3 que contre Milan. Hein. Voilà. Parce que Amine Gouiri qui retrouvait aussi le côté, c'était plutôt intéressant.
Oui, vous avez raison, c'est une vraie interrogation. Alors que Bourigeaud, on sait que c'est un diesel, on l'a dit, ça fait saison après saison, on le dit, mais c'est un diesel qui commençait à arriver en novembre. Et là, même en novembre, il n'est pas arrivé.
Et donc, il est diesel sur l'année 2024. Et tout le monde, évidemment, s'en félicite. Benjamin Bourigeaud, le premier, écoutez-le.
Depuis que je suis arrivé, j'ai toujours dit l'enchaînement des matchs me fait beaucoup de bien. C'est ce que je préfère, la compétition, tout simplement, avoir très peu de récupération entre les deux. Parce que parfois, les semaines sont très longues avec les entraînements. Et voilà, tout ce qu'on aime, nous, en tant que joueurs et compétiteurs, c'est la compète. Donc voilà, je suis vraiment content d'être à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu forcément des moments de doute, mais il y a eu des moments de remise en question.
Voilà, le meilleur profil de Benjamin Bourigeaud vous était offert par Pierre Le Gall de West France. Merci Pierre.
C'est la difficulté de la zone mixte.
Il a été très très gentil. Il m'a envoyé ça très très gentiment. Bon, Terrier, un coup de moins bien.
Ouais, il y a quelques matchs où il passe à côté. C'était le cas à Milan là-bas. Mais à côté de ça, il arrive à faire d'autres performances qui sont superbes. Il est un petit peu alternatif de match en match, mais pas trop à l'intérieur d'un match.
À l'image de l'équipe, enchaîné tous les trois jours, il y en a qui tirent la langue. Lui tire la langue. On n'oublie pas d'où il revient après sa longue absence pour sa blessure. Donc forcément, enchaîné mois de février tous les trois jours, ça a été un peu dur pour lui. On peut le comprendre aussi.
Bon, on a en une minute, c'est compliqué. On va pas entamer le débat. Matuziwa. Est-ce qu'il y a un débat d'ailleurs, Matuziwa, mais
C'est tôt. Il faut laisser le temps au joueur aussi de s'adapter. Il a loupé un match sur suspension également. Il est peut-être un peu trop averti, ouais, parce qu'il a repris un carton jaune contre le Puy là. Mais c'est un joueur qui doit s'adapter. On le fait jouer dans un nouveau système avec un joueur qu'il ne connaissait pas. Voilà, faut laisser un petit peu de temps.
Il n'avait pas été intéressant sur les matchs précédents. Il avait été plutôt bon. Là, il n'a pas été bon effectivement. C'est pas un bon match qu'il a fait, surtout sur le plan technique, dans les relances, un peu
dans les passes. Les passes sont pas claquées. Les passes sont molles.
Il met du temps à s'adapter dans une équipe qui marche super bien. Donc c'est peut-être pour ça que ça nous tape un petit peu à l'œil. Mais il est pas scandaleux non plus. Hein.
Bon. Le fait qu'il va revenir, effectivement, il sera.
C'est plus l'association.
La concurrence, ça va être là, donc il va falloir qu'il fasse un peu attention.
Plus l'association Santa Maria, Matuziwa, qu'on a déjà évoqué.
Moi, je préfère un créateur aussi à côté.
On s'interroge quand même sur
qui a été essayé, Bourigeaud peut-être, ou effectivement le fait quand il va revenir. Moi, j'aime bien ce doublette-là.
En tout cas, Rennes est en demi-finale, la Gambardella est en quart de finale, recevra Marseille le 31 mars, ce sera à 15h et on connaît déjà si Rennes passe l'adversaire en demi-finale, ce sera à l'extérieur et ce sera Reims encore. Ou Brest.
Ouais. Encore à l'extérieur.
Voilà. Mais bon, les grands ont éliminé Marseille, il n'y a aucune raison que les petits ne le fassent pas non plus. Lorient arrive, Lorient dimanche 17h05, important de bien récupérer. On le disait, match moins facile qu'on ne le croit, enfin je ne sais pas qui le croyait, mais... Match un peu charnière.
Mais surtout parce que c'est le 9e en 20 en un mois. Et que on l'a vu, ça commence à tirer. Quelle que soit l'équipe alignée, ça va tirer pour la plupart des joueurs. Après, c'est un Sardinien qui arrive lancé quand même. Et moi, je ne peux pas croire que sur la dynamique actuelle, à domicile, contre Lorient, bon, qui est une équipe un peu qui va mieux. Mais c'est pas non plus extrêmement performant.
Voilà, sur deux victoires à l'extérieur, il faut le rappeler, à Metz et à Strasbourg.
Okay.
Ouais, mais ils ont calé contre Nantes aussi la semaine dernière. Oui. C'est une équipe qui se reconstruit un petit peu, hein, qui reste quand même dans une mauvaise situation. Et comme le dit Guillaume, la dynamique elle est côté rennais.
Oui,
et
puis il y a une revanche à prendre. On va revoir des images du match aller. C'est le match le pire. Enfin, moi, je pense que c'est le match le pire de la saison.
Pour Marie, surtout une belle revanche à prendre.
Oh là là, regardez ça. Regardez ce but. Pom, ting, bom.
Ouais. C'est une autre époque, hein.
C'est une autre époque. Comment il s'appelait l'entraîneur déjà? Il y avait ça, il y avait eu... Mais j'ai revu le match, parce qu'il faut savoir aussi revoir le match. Il y a plein d'occasions rennaises. Hein.
Ah oui,
mais c'était une époque où d'occasions rennais n'était pas efficace devant le but. Il se cherchait dans tous les secteurs de jeu, se cherchait, même en défense.
C'était à une époque où Blas était titulaire aussi.
Oui.
Ouais, et où il marquait. Voilà, et puis le deuxième but, c'était risible comme le premier. Je fais un contrôle pour bien vous aider à vous mettre dans le sens. Et ce joueur-là, le très grand joueur-là, ouais, c'est son seul but, je pense, de sa carrière. Non, il a marqué de la tête l'autre jour. Du pied dans la surface comme ça. C'est le seul. Alors attention, 1 minute 30, on regarde très rapidement les pronos où on en est, s'il vous plaît. Voilà, pour voir que Thomas Rassouli, ici sur ce plateau, est en tête, que Guillaume Lenné, ici sur ce plateau, effectue une remontée assez spectaculaire.
Point de vous, monsieur.
Oui, parce que vous aviez le bon score. C'est même pas un point. Si, vous êtes à un point de moi. Et Christophe Penven est un peu encalaminé dans le fond. Mais tout va changer sans doute. Qu'est-ce que vous dites, Guillaume, puisque vous ne voyez pas le Stade Rennais perdre. Et que moi, j'ai déjà mon prono.
2-0.
Moi, je dis 2-1. Voilà. Donc déjà, Christophe.
Ah, j'allais dire 2-0, donc je vais dire autre chose, je vais dire...
on peut dire les mêmes pronos.
3.
3-1, d'accord, ok.
Ce sera aussi mon
Thomas Rassouli,
3-1 pour rien.
Vous êtes le co-leader, vous êtes le deuxième
non, je suis tout seul.
De ce championnat. C'est vrai que vous êtes tout seul, c'est vrai. Oui,
non, vous n'êtes pas du... David Thomas.
Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. On sera là lundi pour débriefer le match de Lorient et puis pour vous parler peut-être de l'adversaire de Coupe de France, parce qu'on le connaîtra nous à ce moment-là. Et puis on aura une semaine pour tranquillement avancer vers Lille. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles à TVR et au Stade Rennais. Allez Rennes.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitant, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.